Josiane, à la droite, c'est le reflet du photographe. Et à la gauche, le reflet de je ne sais qui ou quoi. Avec tant de reflets mélangés à travers le miroir, que reste-t-il de l'homme ?
Avec tant de reflets mélangés à travers notre miroir, que reste-t-il de Koltès ?
Quand j'ai vu le film de Jim Jarmusch, Down by Law, je me suis retrouvé dans les relations entre Tom Waits et John Lurie, réunis à leur corps défendant. Ce qui se passe entre eux est mystérieux comme dans un match de boxe. On met deux hommes sur un ring, ils doivent se battre et gagner. Deux personnes qui ne se connaissent pas se tapent à mort devant le public, vivent des choses qui dépassent la passion amoureuse. Face à l'adversaire, ils se dépouillent, souffrent comme jamais. Chez moi, ils se battent par le langage, et le langage entraîne une transformation en eux. Ils jouent à « si tu voulais, on serait copains » sans être dupes.
T'as raison, Noël. On ne peut pas toujours vivre au présent.
Tu joues, tu te défonces, tu fais.
Mais je me marre.
Je sais, tu as toujours des plans pour l'avenir, et pourquoi ? Parce que tu bousilles le présent. Je peux te dire des trucs sur toi dont tu ne t'es jamais douté, qui n'ont jamais pénétré ton crâne pointu.
Tu sais ce qu'on dit. Si t'as plus faim, fais comme l'écrevisse, pars à reculons.
Vivre au présent serait donc cultiver l'ignorance de l'avenir. Pour reprendre les mots du voyageur de Nietzsche à son ombre. Ne se soucier d'aucune conséquence, même personnelle, même suicidaire, d'un acte immédiat de plaisir, un acte d'autant plus jouissif qu'il ignore tout de l'altérité et du lendemain. Dans le film de Jim Jarmusch, la concession de Jack à Laurette n'est qu'une dénégation provisoire, propre à diluer le temps de la discussion, à préserver et réserver l'intensité de l'addiction. En contrepoint, l'analyse de la femme, noire, qui fait partie de son réseau de prostituées, a pour but de montrer aux spectateurs non seulement l'inanité des projets de Jack, mais également leur contradiction intrinsèque. Ses plans pour l'avenir n'ont d'autre but que de bousiller le présent. Ce que la scène suivante va immédiatement prouver, pour mieux dépenser son éternel présent, Jack cherche à étendre son réseau de jeunes femmes, tombe dans le piège qui lui est tendu par un autre proxénète, est arrêté par la police et croupit en prison. Entre-temps, cependant, entre la scène de discussion et la scène d'arrestation, Jack descend dans la rue et croise un homme, noir, qui lui donne un conseil. Pars à reculons. Mais comme il a toujours faim, Jack ne tient pas compte de cet avertissement et continue sa marche en avant, aveugle, vers son arrestation. Koltès dit avoir retrouvé la situation de la solitude dans le film de Jarmusch, qu'il a vu plusieurs mois, presque un an, après avoir fini d'écrire le texte. Il n'y a donc pas d'influence du film sur le texte, mais une reconnaissance. Dans l'entretien qu'il accorde à Colette Goddard, Koltès met l'accent sur l'hostilité entre les deux personnages, réunis à leur corps défendant, Jack, John Lurie, et Zach, Tom Waits, et compare leur relation mystérieuse à celle qui peut rassembler deux boxeurs sur un ring. Il confronte alors la lutte verbale de son dealer et de son client au combat de boxe, comme il opposera, dans le programme distribué aux spectateurs à la création de Chéreau, l'échange des mots à l'échange des coups. Or, c'est bien là, selon lui, une question de scénario et de temps. L'échange des mots ne sert qu'à gagner du temps avant l'échange des coups, parce que personne n'aime recevoir des coups et tout le monde aime gagner du temps. Il n'est pas certain que personne n'aime recevoir des coups et tout le monde aime gagner du temps. Mais on voit bien que c'est la situation dans laquelle Koltès place dealer et client. Et c'est à cet endroit qu'il reconnaît, dans le film de Jarmusch, une situation préalable à celle de la solitude, non pas préalable au sens chronologique, mais au sens logique, psychologique, physiologique, il y reconnaît une référence, comme la scène de passage à tabac à l'aéroport de Lagos a pu servir de référence, de légende originelle, à la situation de Combat de nègres et de chiens. Ce que le film de Jarmusch met en scène est exactement ce que la solitude va éviter. Deux choses, l'indifférence au langage de l'autre et la nécessité d'un tiers pour éviter le duel du chien et du chat. Rembobinons, comme on disait alors, le film et revoyons la scène. Chez Jarmusch, Jack est indifférent aux paroles de la femme allongée dans son lit. « Qu'est-ce que tu peux causer ?» lui dit-il, alors qu'elle se plaint de son silence. « Je peux rester là à user ma salive, tu n'entends pas un mot. » Jack est tout aussi indifférent, on l'a vu, aux paroles de l'homme qu'il croise dans la rue. De son côté, Zach n'a pas grand-chose, lui non plus, à répondre aux reproches de sa petite amie qui le jette à la rue. Et lorsque Jack et Zach se rencontrent en prison, c'est seulement l'arrivée d'un tiers, Bob, un Italien extravagant, Roberto Benigni, qui va empêcher la relation de virer au pugilat. Dans la solitude, au contraire, le dialogue n'a de cesse de différer le combat. Le dealer et le client sont attentifs l'un à l'autre. Ils n'ont pas besoin d'un tiers pour se parler. Ils ont intégré d'entrée de jeu que le langage est susceptible de sublimer tout différent. Est-ce si simple ? Les premières répliques montrent que non. C'est que, comme l'écrivait Coltès à Hubert Gignoux dès 1970, dans les rapports entre les personnes, c'est un peu comme deux bateaux posés chacun sur deux mers en tempête et qui sont projetés l'un contre l'autre, le choc dépassant de loin la puissance des moteurs. Il ne s'agit donc pas forcément de savoir si le dealer a interrompu la trajectoire du client ou si le client est passé près du dealer pour le provoquer. Au contraire, comme le dit subtilement le dealer, et si je dis que vous faites une courbe et que sans doute vous allez prétendre que c'était un écart pour m'éviter, et que j'affirmerai en réponse que ce fut un mouvement pour vous rapprocher, sans doute est-ce parce qu'en fin de compte vous n'avez point dévié, que toute ligne droite n'existe que relativement à un plan, que nous bougeons selon deux plans distincts, et qu'en toute fin de compte n'existe que le fait que vous m'avez regardé et que j'ai intercepté ce regard, ou l'inverse, et que, partant d'absolue qu'elle était, la ligne sur laquelle vous vous déplaciez est devenue relative et complexe, ni droite ni courbe, mais fatale. Chacun sur sa mer en tempête, chacun sur son plan distinct. Dealer et client se trouvent dans une situation relative et complexe et fatale. Si Jack est indifférent aux avertissements qu'il reçoit de la fatalité, et qu'ainsi son destin le conduit en prison, le client et le dealer dialoguent, réfléchissent, pervertissent, mais parlent. Si Jack refuse de prendre conscience que jouir de l'instant est aussi jouir de la mort à son corps défendant, que dépenser, c'est bousiller, la parole, au contraire, écartèle le temps de la dépense, réfléchit les motifs de la jouissance, diffère le désespoir et retarde la fatalité. Donné abstraitement dans l'artifice d'un pur dialogue, comme écriture, Coltès élève cette parole au rang d'un modèle transpercé d'ironie. Bien sûr, dans une situation réaliste, le dealer et le client ne se parleraient pas plus d'une minute, et si la rencontre tournait mal, personne n'attendrait une heure et demie d'échange pour dégainer une arme. Et qui, dans ces espaces non homologués, suivrait une coutume ancienne pour provoquer un duel en proposant à l'autre le choix de l'arme. Car si rien n'indique dans la solitude que les deux protagonistes vont se battre de quelque manière, tout montre par la construction du discours, ses monologues croisés, ses réponses différées, ou qui parfois précèdent même les questions, que le dialogue pourrait recommencer aussitôt qu'il s'est épuisé. Coltès ouvre dans la solitude le temps d'un cycle ouvert à la répétition infinie de ce qu'il nomme un commerce du temps. Or, ce n'était pas le cas dans Combat, où l'arme tue, venge, de manière préméditée, la nuit passée, l'ultimatum atteint. L'homme noir n'est pas ici celui qui prévient de la fatalité, c'est au contraire le vieil homme blanc, acclimaté à l'Afrique, qui tente de convaincre le criminel de marcher à reculons. Dans cette pièce à quatre personnages, constituée presque uniquement de dialogues à deux, les valeurs d'usage du langage sont multiples, mais au milieu des hommes, Léon tente déjà de s'approcher de l'enjeu éthique de la solitude. Connaître l'autre, pense-t-elle, demande de le connaître dans sa langue, demande de connaître la langue de l'autre, et cela prend du temps. Oui, c'est comme cela qu'il faut parler, vous verrez, je finirai par saisir. Et moi, vous me comprenez? Si je parle très doucement, il ne faut pas avoir peur des langues étrangères, au contraire. J'ai toujours pensé que si on regarde longtemps et soigneusement les gens quand ils parlent, on comprend tout. Il faut du temps, et voilà tout. Moi, je vous parle étranger, et vous aussi, alors, on sera vite sur la même longueur d'onde. Je passe la réplique d'Albouri. Mais lentement, n'est-ce pas? Sinon, on n'arrivera à rien. C'est que provoquer et maintenir le temps de l'échange dans un monde empli de tant de contradictions, de tant de faisceaux de violence, est épuisant. Dans la solitude, après avoir demandé à deux reprises du temps, je demande du temps, je demande du temps, le client constate que, je cite, « l'obscurité est si profonde qu'elle demande trop de temps pour qu'on s'y habitue et que la solitude nous fatigue. » Bob, alors, peut-être, pourrait les aider. Ainsi, si Coltès se reconnaît dans Jarmusch, reconnaît la solitude dans Down by Law, c'est parce qu'au fond, ces personnages sont aussi paumés que Jack et Zack, et que le film, comme le texte, composé comme deux monologues ignorants l'un de l'autre mais qui finissent par se croiser, trouve chacun un moyen d'exemplifier le rapport éthique qui permet d'éviter le combat. L'introduction du tiers chez Jarmusch, l'élaboration du dialogue chez Coltès. On trouvera toujours chez Coltès cette lutte entre deux temps, lutte schématique, entre temps de la perte et gain de temps, entre jouissance du risque et jouissance d'un langage qui prend en compte la compréhension ou la reconnaissance du mystère. Une autre forme d'intelligence, écrivait-il à sa mère. Il faut apprendre une autre manière de penser qui est contemplative, qui ne cherche ni l'explication ni la compréhension, moins encore cette forme de jugement qu'est le remords. C'est une manière de penser qui ne peut être que muette, parce que les mots et les images sont un obstacle et une réduction de cette pensée. C'est probablement ce qu'il nomme de Vantical, un retournement du sens du temps, ajoutant « on est devant l'élaboration interminable et progressive d'un projet d'avenir très lointain ». Ainsi, retourner le sens du temps, ce n'est évidemment pas revenir en arrière de manière passéiste, nostalgique, réactive, voire réactionnaire, c'est voir que le temps plonge toujours dans le secret, le mystère, que le temps n'est qu'un présent infini, infiniment dilaté, qui repousse indéfiniment l'avenir, qui oscille entre deux modes de dépenses agonistiques, chacune, comme le souligne Georges Bataille, ayant sa fin en elle-même, le bousillement et la parole.
Mais les choses belles sont secrètes et jalouses, et il faut de la patience.
S'il vous plaît, dans le vacarme de la nuit, n'avez-vous rien dit que vous désiriez de moi et que je n'aurais pas entendu?
Le dealer a-t-il, dans son impatience, dans le temps infiniment bousillé et qui ne cesse pas de ne jamais tout à fait se bousiller, négligé d'entendre ce qu'on lui disait? Dur d'oreille, le dealer, plutôt que dur en affaires, alors que l'ensemble de cette partition du deal a, semble-t-il, amolli son cœur. Et quand on entend cœur, on entend autre chose. Et voir justement comment Chéreau fait entendre, dans le plus haut degré de désespoir, cette réplique trouée de silence. Et presque, alors si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, ça va fonctionner. La jouissance du silence dans lequel se complice Chéreau.
S'il vous plaît. Dans le vacarme de la nuit, n'avez-vous rien dit que vous désiriez de moi et que je n'aurais pas entendu?
Qu'est-ce à dire et qu'est-ce à entendre, y compris dans les silences de Chéreau? Ainsi, des choses auraient été dites qu'on n'a pas entendues, tout occupé qu'on était à vouloir entendre autre chose, ou tout assailli qu'on fut du vacarme de la nuit, qui aura donc tout recouvert. Poétique du malentendu. Et il se joue entre le dealer et le client ce qui se joue peut-être de la pièce au spectateur. De quoi s'agit-il? Et l'ai-je bien entendu? Et qui s'est joué de Coltès à Chéreau. On dit une chose et on entend l'autre chose parce qu'elle est prise dans le bruit du monde où elle surgit et qu'on désire absolument l'entendre. Et qu'on ne sait pas si ce qu'on entend, c'est le monde lui-même, vacarme, ténèbres, ou le langage qui le perce et le dévoile. Est-ce que c'est pas ça qu'on nomme théâtre? Ce lieu et cette heure où ce qui se dit n'est pas tout à fait ce qu'on entend. Et ce qui s'entend ne s'ajuste pas tout à fait à ce qui se dit. Non pas seulement parce qu'au théâtre, on ne dit pas « je suis triste, mais je vais faire un tour », mais aussi parce que celui qui entend ceci voudrait entendre cela. Et encore, sans rien dire de ce qui s'échappe de soi, qui coule hors de soi, sang, sperme, mots, qui deviennent des aveux, qui à soi-même nous défigurent et nous dévoilent, nous jugent, dit la citation au-dessus de moi, et donc nous accusent, nous accablent et nous déchirent. Quelle est cette langue qui n'est pas ce qu'elle dit et qui dépend pour l'entendre d'un ajustement permanent, d'un besoin à son désir? Alors on reconnaîtrait peut-être ici une sorte d'économie de la parole, en fait d'économie morale, une économie politique d'un usage de la parole dans le cadre d'une transaction singulière. Une sorte d'escroquerie généralisée qui gouverne ici les circulations des mots, une perversion. Tu as utilisé un autre mot, Yannick, une sorte d'enculade du langage qui organise la syntaxe, la grammaire. On a touché au langage, comme on pose la main sur une vierge qui s'est révélée putain. Et on ne sait plus, dans ce vertige, ce qu'il en est de la valeur du langage. Valeur d'usage, la valeur d'usage, c'est valeur où le prix est déterminé en fonction du besoin qu'on a de l'objet, ou valeur d'échange. La valeur d'échange se réfère au prix du marché qu'on est prêt à payer pour l'objet. Et donc, il est déterminé par rapport aux autres marchandises. Dans les termes de Marx, dans ses manuscrits de... Ouais, j'ai fait 1857 et 58. En tant que valeur, dit Marx, la marchandise est universelle. En tant que marchandise réelle, elle est une particularité. Si la valeur d'usage est donc complètement, enfin intrinsèquement subjective, elle dépend de son désir, le prix que je suis prêt à donner, la valeur d'échange, elle est établie du dehors, comme une loi, la loi du marché. De fait, ce qui se joue dans ce langage, si on applique cette théorie de l'économie à l'économie morale du langage même, c'est un ajustement permanent, une mobilité toujours instable des valeurs. On croit que la langue possède telle valeur et elle en a une autre. On a l'impression que le mot signifie ceci parce qu'on le veut, mais il dit cela parce que toute autre chose l'exige. On est sûr d'avoir entendu ce qui est dit, mais c'est autre chose qui s'est dit à travers les mots. Est-ce qu'on a bien entendu? Albouri veut-il le corps de son frère? Et est-ce bien son frère? Léon l'a bien entendu parler étranger, mais était-ce bien de l'alsacien? Et c'est comme ça qu'elle l'entend, Léon, qu'Albouri parle alsacien. Non, non, il ne parle pas alsacien, il parle étranger. Et d'ailleurs, Chéreau, lui, n'entendra pas l'alsacien. Il entendra un allemand fautif et il corrigera le manuscrit pour que Léon parle allemand. Et ce faisant, on n'aura pas bien entendu ce dont il était question dans la pièce, que Léon parlait alsacien. Et le client lui aussi corrige. Ébloui de ses noms, à moins que son nom veut dire oui, que refuser est une manière d'accepter, et valeur d'usage et valeur d'échange s'échangent dans l'usage miroitant de l'un et de l'autre. Et devant ce vertige, nous sommes comme devant ces hommes travestis en femme qui se déguise en homme. À la fin, on ne sait plus où est le sexe. C'est donc qu'on le cherchait, le sexe. Et l'aveu qui se révèle à l'endroit où on le dénie. N'est-ce pas celui-là, ce mot qu'on désirait entendre et qu'on n'a pas entendu, ou ce mot qu'on refusait d'entendre et qui ne cessait d'être dit? À sa mère, en 1977, Coltès avait écrit, une longue lettre pour lui expliquer la nuit juste avant les forêts. C'est avant la solitude et avant le combat, mais ça ressemble assez bien à cette affaire-là. Mais Germaine avait Germaine avait tout à fait compris de quoi il s'agissait. Et Patrice ne lira pas autrement les textes que Germaine. Et qu'en dépit du vacarme de cette nuit, c'était bien une demande de sexe. Et il n'y a pas que le sexe dans la vie. Et ton texte ne parle que de ça, avait dit Germaine, sous la forme d'un reproche. Reproche que ne fera pas Patrice. On verra après. Je te répondrai, entre autres, se justifie Coltès, comme une plaidoirie de la défense devant l'accusation. Je te répondrai que mon personnage parle de tout sauf de cela, qui est pour lui un sujet tellement familier, donc facile, que c'est de celui-là qu'il se sert pour parler du reste. Quant à ce reste, je ne peux pas... pour s'arrêter deux secondes, il parle de tout sauf de cela, mais c'est de ça dont il parle, puisque c'est de celui-là dont il se sert. Quant à ce reste, je ne peux pas te le dire comme ça, parce qu'il m'a fallu une pièce pour l'exprimer et qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Ici, Bernard rejoue, redouble le fonctionnement de sa langue. Le mot sert à autre chose qu'à lui-même, quand bien même c'est lui qu'on a entendu. Pièce qui donc échappe à l'interprétation, au sens herméneutique de l'interprète d'une langue étrangère, celui qui trouve une équivalence de sens au mot donné dans la langue étrangère. Il n'y a pas de règle, il n'y a que des moyens, il n'y a que des armes, que des moyens, que des mots qui ne sont pas ceux-là, qui portent d'autres mots qui échapperont toujours. User de la langue, c'est en faire un usage métaphorique, non par ornement comme nous l'a bien montré Jérémy Majorelle, mais par nécessité de dire autrement ce qu'il en est, puisqu'on ne peut pas dire comme il en est. Pour en revenir à mon personnage, toujours sur la nuit justement les forêts, mais encore une fois, ça joue avec la solitude. Donc, pour en venir avec mon personnage, dit Bernard à la fin de cette lettre, à sa chère petite maman qui voudrait savoir, comme le dealer, ce qui a été dit si ce n'est pas le sexe, et qu'elle n'aurait pas entendu. La question est de savoir s'il a d'autres moyens que celui-là d'avoir un rapport d'amour, le mot y est, avec les autres. Est-ce qu'il y a un autre moyen ? Alors, on sait que Chiro dira que non, qu'il n'y a pas d'autre moyen que l'amour, pour le dire. Et on sait maintenant que le carnet rouge, dont on a parlé tout à l'heure, dira bizarrement aussi, mais différemment, que non. Alors, je vous ai mis une capture écran, ça se voit pas, mais... si, non, ça se voit pas. Mais si on avait des yeux... On lirait baiser avec les mots. Pardon, baiser par des mots. Baiser par des mots. Et il a mis un petit trait à gauche, ce qu'il ne met pas tout le temps dans son carnet rouge, ce qui veut dire qu'il le conserve. Baiser par des mots, par-delà le vacarme de la nuit, revient à chercher ce degré, je reprends la lettre, de connaissance, de tendresse, d'amour, de compréhension, de solidarité qui est atteint en une nuit entre deux inconnus, supérieur à celui que parfois deux êtres en une vie ne peuvent atteindre. Que c'est précisément l'ajustement permanent des valeurs d'usage et d'échange du langage qui permet non la fusion par le sexe, mais la connaissance et la solidarité. Solidarité qui peut aussi être d'hostilité ou de désaccord. Et là, encore, comme partout chez Coltès, pas de fusion, pas de réconciliation fusionnelle. Ce mystère-là, écrit, conclut le fils à sa mère avec ce mot de mystère dans le vocabulaire de la mystique, qu'elle domine mieux que le vocabulaire de Marx. Ce mystère-là mérite bien qu'on ne méprise aucun moyen que des moyens, aucun moyen d'expression dont on est témoin, mais que l'on passe au contraire son temps à tenter de les comprendre tous pour ne pas risquer de passer à côté des choses essentielles. Or, avait-il écrit plus haut, plus la chose à dire est importante, essentielle, plus il est impossible de la dire. On ne sait toujours pas ce que c'est que cette chose. Bon. C'est-à-dire, plus on a besoin de parler d'autres choses pour se faire comprendre par d'autres moyens que les mots qui ne suffisent plus. Jamais tu n'entendras dire à quelqu'un qui souffre de la solitude « je suis seul », ce qui est ridicule et humiliant. Mais il te parlera d'un certain nombre de choses dérisoires et le rapport s'établit entre deux êtres dans la mesure où ils se comprennent à travers ce dérisoire-là. Le rapport s'établit. Et puisqu'il n'y a pas de rapport sexuel et qu'il n'y a pas, encore moins, d'amour, qu'il n'y a que de la solitude, il n'y aurait qu'un rapport à travers le dérisoire, l'autre nom du vacarme. De solitude à solitude, il s'agit toujours de dire autre chose que ce qu'on dit pour dire autre chose que ce qu'on désire, et qu'il ne s'agit jamais de dire quelque chose pour accomplir cette chose, mais d'établir un rapport sans cesse repris, car toujours manqué, et donc appelé à se rejouer.
Dis-moi, l'amoureux, quand tu perçois tout d'un coup l'épisode amoureux comme un nœud de raisons inexplicables et de solutions bloquées, que t'écris-tu ?
Je veux comprendre ce qui m'arrive.
Mais alors, que penses-tu de l'amour ?
En somme, je n'en pense rien. Je voudrais bien savoir ce que c'est, mais étant dedans, je le vois en existence, non en essence. Ce dont je veux connaître, l'amour, est la matière même dont j'use pour parler, le discours amoureux. La réflexion m'est certes permise, mais comme cette réflexion est aussitôt prise dans le ressassement des images, elle ne tourne jamais en réflexivité. Exclue de la logique, qui suppose des langages extérieurs les uns aux autres, je ne peux prétendre bien penser. Aussi, j'aurais beau discourir sur l'amour à longueur d'année, je ne pourrais espérer en attraper le concept que par la queue. Par des flashs, des formules, des surprises d'expressions dispersées à travers le grand ruissellement de l'imaginaire. Je suis dans le mauvais lieu de l'amour qui est son lieu d'éblouissement. Le lieu le plus sombre, dit un proverbe chinois, est toujours sous la lampe. Je veux analyser, savoir, énoncer dans un autre langage que le mien. Je veux me représenter à moi-même mon délire. Je veux regarder en face ce qui me divise.
Selon la méthode de distanciation propre à Roland Barthes, héritée de Brecht et intégrée, adaptée, réfléchie, déployée dans son écriture, les fragments d'un discours amoureux mettent l'amoureux à distance de lui-même. Coltès en donne quelques échos dans son carnet rouge, ce qui lui trouve un nouveau reflet. Pour comprendre l'amour, on ne parle pas d'amour, on ne discourt pas sur l'amour, il faut échapper à toute complaisance imaginaire, il faut adopter un autre langage. Avec beaucoup plus de légèreté, mais il s'agit d'un entretien, non d'un essai ou d'un cours dans une haute institution d'enseignement supérieur, Coltès dénonce l'imposture du discours amoureux et proclame la nécessité de substituer au langage immédiat une esthétique du détour. Je n'ai jamais aimé les histoires d'amour. Ça ne raconte pas beaucoup de choses. Je ne crois pas au rapport amoureux en soi. C'est une invention des romantiques, de je ne sais pas trop qui. Si vous voulez recouvrir les rapports entre deux personnes en disant « c'est de l'amour, point, et on n'en parle plus », c'est un truc qui m'a toujours révolté, déjà avant. Quand vous voyez un couple qui n'arrête pas de s'engueuler, qu'ils sont odieux mutuellement, et qu'on vous explique « oui, mais ils s'aiment », je sais que les bras m'en tombent. Ça recouvre quoi, le mot « amour » alors ? Ça recouvre tout, ça recouvre rien. Si on veut raconter d'une manière un peu plus fine quand même, on est obligé de prendre d'autres chemins. Je trouve que le deal, c'est quand même un moyen sublime. Alors, ça recouvre vraiment tout le reste. Dans la solitude, le deal devient ainsi la métaphore qui structure ce qui reste de récit, mais ça aurait pu être tout aussi bien la manche, la drague, la palabre, le marchandage, le kung-fu, la capoeira, ou encore la danse, comme dans Nickelstaff. Les monologues qui se coupent sont autant de fragments d'un discours amoureux qui recouvre de multiples figures, désirs, provocations, accoutrements, dignité, cruauté, entente tacite, ou, dans le langage de Barthes, attente, cachée, comprendre, contact, dépense, habit, nuit, obscène, pourquoi, rencontre, vouloir saisir. Dans la solitude, ces figures ne sont pas disposées dans l'arrangement arbitraire et ludique d'un abécédaire, comme chez Barthes, mais dans un labyrinthe de répliques et de phrases, multipliant les affirmations, les contradictions, les prétéritions, les hyperboles, les apories, les relances, les oublis, les menaces, les précautions, les insultes. Au bout de l'épuisement, dans l'impossibilité de trouver la fibre de la communication, dans la reconnaissance peut-être de ce que le deal n'était pas la métaphore la plus appropriée, et probablement par dépit, le client propose. Alors, quelle arme ? Ce n'est pas sans avoir rappelé, juste avant, que tous deux, le dealer et lui, sont unis par un pacte, ce pacte même auquel atteint Léon lorsqu'elle se scarifie. Essayez de m'atteindre, vous n'y arriverez pas. Essayez de me blesser, quand le sang coulerait, eh bien ce serait des deux côtés, et inéluctablement le sang nous unira, comme deux Indiens au coin du feu qui échangent leur sang au milieu des animaux sauvages. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Non, vous ne pourrez rien atteindre qui ne le soit déjà. Parce qu'un homme meurt d'abord, puis cherche sa mort, et la rencontre finalement, par hasard, sur le trajet hasardeux d'une lumière à une autre lumière, et il dit « Donc, ce n'était que cela. » Comment entendre cet énoncé à la temporalité paradoxale ? Si un homme meurt d'abord, dans le sens premier du verbe « mourir », alors dealer et client sont à percevoir comme deux spectres qui, infiniment, comme Sisyphe, roulent leurs fragments, leurs monologues, au sommet d'une montagne où jamais une arme ne sort. Si un homme meurt d'abord par métaphore, meurt d'amour, meurt de ce qu'il n'y a pas d'amour, Alors dealer et client nous renvoient l'image d'un désespoir infini, une mélancolie, qui n'éteint pourtant pas le désir, tour à tour désir charnel, sauvage, violent, anal, risque tout, et quête d'altérité aux accents mystiques, peut-être le mourir de ne pas mourir de Thérèse d'Avila et de Jean de la Croix. Ce désespoir serait alors comme le fond d'un dialogue qui ne vit que de sa forme fragmentée. Mais quel que soit le sens de cette mort d'abord, peut-être à entendre encore comme une mort qui survient dès les premiers instants de l'abord, de la rencontre, et dont toute la pièce se passe en reconnaître la condition, sur le trajet hasardeux d'une lumière à une autre lumière, quel que soit le sens littéral ou métaphorique de cette mort, il plaide pour la structure cyclique et pour la dimension éthique du dialogue. Renversons ainsi le proverbe chinois cité par Roland Barthes. Le lieu le plus clair est toujours à l'écart de la lampe. Pour parler d'amour, il ne faut pas parler de ce qui l'éclaire. Il faut, dans la logique fantasmatique de Colteste, être juste à côté de ce qui l'éclaire, être caché derrière un réverbère. Il me semble qu'ils seront inévitablement présents jusqu'à la fin dans tout ce que j'écris. Me demander d'écrire une pièce ou un roman sans qu'il y en ait au moins un, même tout petit, même caché derrière un réverbère, ce serait comme de demander à un photographe de prendre une photo sans lumière. C'est le noir qui, chaque fois, inévitablement présent, permet de photographier les enjeux du désir. Ouvrier de chantier, comme Albury, migrant réfugié dans un hangar, comme Abad, dans Key West, parachutiste sanctionné dans Le Retour au désert, et peut-être le dealer que Colteste déclarait vouloir noir sans l'avoir jamais écrit. Le noir est peut-être ce signifiant qui représente le sujet pour un autre signifiant, pour reprendre la formule de Lacan, et cela signe son altérité irréductible. Comprendre, alors, est une prétention vaine, trompeuse et excessive. Comprendre n'est qu'une possibilité offerte par l'usage d'un langage symbolique qui, pour être valide, peut toujours aussi être remplacé par un autre langage symbolique. Ainsi, il ne s'agira pas de comprendre, mais de reconnaître ce que l'on ne comprend pas, comme le formule le dealer. Aujourd'hui que je comprends davantage de choses, que je reconnais davantage les choses que je ne comprends pas. Est-ce précisément cette reconnaissance qui me divise, comme l'écrit aussi Barthes, dans la mesure où elle n'est jamais pleine, comme le serait la connaissance, la compréhension suprême? Il y a un peu plus de 15 ans, le 27 octobre 2009, je demandais à Yannick Butel, qui venait d'initier sa série « Capitalisme et dramaturgie », si le dealer et le client parlaient le même langage. Nous nous en sommes expliqués à plusieurs reprises depuis, et cela a laissé des traces d'écriture. Mais je me demande aujourd'hui s'il ne faut pas aller plus loin. Dealer et client seraient-ils le même personnage, divisé, permettant à un autre sujet, postulation d'auteur, de regarder dans un autre langage ce qui le divise? En ce sens, Combat de nègre et de chien, qui multipliait les points de vue en multipliant les personnages, mais surtout en multipliant les contradictions à l'intérieur de chaque personnage, en ce sens, Combat anticiperait sur la solitude qui prolongerait, elle, cette trouvaille, en multipliant à nouveau les contradictions à l'intérieur de chaque personnage, mais surtout en postulant, invisiblement, un seul personnage assistant aux enjeux et aux tourments de sa propre division.
Et si la conscience, une telle conscience, était notre avenir humain?
Si, par un tour supplémentaire de la spirale, un jour éblouissant entre tous, toute idéologie réactive disparue, la conscience devenait enfin ceci, l'abolition du manifeste et du latent, de l'apparence et du caché. S'il était demandé à l'analyse non pas de détruire la force, pas même de la corriger ou de la diriger, mais seulement de la décorer en artiste. Imaginons que la science des lapsus découvre un jour son propre lapsus et que ce lapsus soit une forme nouvelle, inouïe, de la conscience.
C'est là peut-être le drame, celui du dealer, du client et de Chéreau, qui ne sait plus s'il est dealer en lady sous fausse moustache et ventre postiche ou vrai simulacre de corps, client du drame, du texte, fournisseur, substance, rien, vacarme. N'avez-vous rien dit que je n'ai pas entendu? L'inouï tient à cela encore, au fait qu'on ne peut entendre ce qui est inouï, que c'est à ça qu'on reconnaît l'inouï, qu'on ne peut pas le reconnaître. Et puisqu'on a malgré tout entendu quelque chose, est-ce quelque chose d'autre ou quelque chose par quoi s'entendrait la chose même, il faut bien provoquer l'adversaire, et c'est toujours ce que Coltès, mais ce qu'on préfère tous le plus dans les arts martiaux, l'approche de l'adversaire. Je te jure que tu devrais te renseigner sur la capoeira. C'est le comble de ce que j'ai toujours préféré dans les arts martiaux. Soit donc ce tour de spirale qui a un tour de passe-passe. Ce que Barthes nommait tout à l'heure de l'amour, cette dissolution, je vais la remettre peut-être, cette dissolution, cette abolition presque brutale de la réflexivité, est-ce que c'est pas ce qui nous permettrait de nous saisir du mouvement de l'écriture de Coltès et tout à la fois du geste qu'a commis Chéreau sur celle-ci, et même plus sûrement ce contre quoi cette écriture et ce geste se sont heurtés? C'est qu'à vouloir approcher par le langage le noyau central du désir, on a tôt fait en le nommant d'en détruire la force, c'est-à-dire son mouvement. Alors on sait bien, désormais, le drame, c'est celui de la troisième solitude. Spectacle manifeste du dépli de cette force, la dramatisation qu'on dirait, au sens propre, impeccable de la pièce écrite. Car force est de constater que l'inouï se laisse ici, dans la mise en scène de Chéreau, entendre. Dans la mise en scène de Chéreau, le latent devient manifeste. Et même manifestation de ce que Coltès avait pourtant pris soin de laisser enfouir au dedans de la pièce. Et ce qu'il a enfoui au dedans de la pièce, c'est peut-être rien. Car la vraie profondeur, s'il en est une, vient de la multitude de barrières que le personnage ici, mais bon, a élevées entre ce qu'il révèle et son secret. Au point que quand on croit avoir découvert enfin le cœur du problème, Chéreau, on peut être certain que c'est encore qu'une barrière façonnée pour empêcher qu'on pénètre davantage. Au point qu'il n'est pas du tout sûr qu'à la fin il y a un secret. Sinon que corps, à prononcer corps, se présente comme une infinité de cercueils pharaoniques emboîtés les uns dans les autres et destinés à tromper le regard. Et que vouloir profaner l'infini mystère de cette tombe conduirait probablement l'explorateur à découvrir une dernière boîte renfermant quelques cendres mortes et dépourvues de sens. Tel est le tour ultime de la spirale. De jouer l'éblouissement en tant que tel. Un jour éblouissant entre tous, écrit Barthes. Dans la nuit, l'éblouissement risque bien d'être cet éclat de lumière révélant la masse obscure du désir. Mais c'est le piège aussi. Abolir le latent par le manifeste, le révéler et par là en détruire la force. Piège dont nous avait pourtant averti Christophe Triot, pour qui, Christophe, il s'agit de faire jouer, je cite, une relation complexe. Donc jouant sur un va-et-vient permanent entre cette opacité irréductible du mystère, en un mot de l'étrangeté, ou de la distance qui caractérise l'œuvre, et, d'autre part, l'intimité, la proximité, l'évidence dont elle est cependant paradoxalement également porteuse. Un mouvement de flux et de reflux, un rapport dialectique entre le caché et l'évident, la distance et l'intime, ce qui est donné et ce qui se retire, la surface opaque et la profondeur, le proche et le lointain. Un jeu, donc, un rapport qui, pour jouer, doit toujours pouvoir se miroiter. Piège dans lequel tomba, et semble-t-il, pour discuter, Chéreau, qui se précipita dans la gueule du loup, mais quelle gueule et quel loup, et qui ne recula donc pas devant le lapsus dont parlait Barthes, et il glissa même vers lui en conscience toute réflexivité bue. On sait que Chéreau, on en a parlé tout à l'heure, a compté les occurrences du mot « désir », 49 fois, et ce faisant a commis ce lapsus qui est une tautologie, dire que le désir est un désir de désirer. Telle est l'abolition du latent par le manifeste. Mais c'est un leurre, peut-être un éblouissement, un piège. Peut-être était-il plus simplement, plus humblement, plus affectueusement, Et pour reprendre les critiques deleuziennes de l'acception psychanalytique du désir dont a rappelé Yannick, alors je le dis un peu vite parce qu'il les a rappelées, on ne s'était pas concerté, hein. Mais les critiques de Deleuze sur la psychanalyse, c'est la conscience, ce n'est pas un théâtre qui rejoue la répétition du même, mais c'est une usine, une machine. C'est pas, ça c'est la première critique. La deuxième critique, c'est le désir, c'est pas, comme croit la psychanalyse, la formulation d'un délire égotique, mais c'est l'espace d'un délire monde. Et la troisième critique, c'est pas l'expression univoque et convergente vers l'objet désiré, mais c'est un agencement collectif d'énonciation. Et il me semble que Chéreau, comme les trois tentations du Christ, est tombé dans les trois pièges qu'énonce Deleuze. Faire de la pièce un théâtre, faire de la pièce la formation d'un délire de soi à soi, et on sait la part auto-fictionnelle qu'a cette troisième solitude avec Grégory, et l'expression univoque et convergente d'un l'objet désiré qui est le désir même, et on va monter la mise en scène, la solitude comme une scène de drague. Je fais vite, mais or peut-être que cette pièce là ne traverse pas un thème érotique mais produit une forme-force politique, cet agencement collectif d'énonciation. Et cet agencement est inouï, inouï à l'entendement lui-même. De la conscience, donc une forme de la conscience en tant qu'elle ne possède ni manifestation, ni latence. Qu'elle dialectise les rapports, dit Christophe, et s'il était là, je lui proposerais plutôt qu'une dialectique, peut-être une abolition du manifeste et du latent. En tant qu'elle rendrait indiscernable ce qui est manifeste et ce qui est latent. Et ce qu'on croit être manifeste est en fait latent, et ce qu'on croit être latent est peut-être manifeste. Parole donnée, parole prise, don contre don, présence évanouie, sitôt dite, présent, cadeau, comme le désir d'un acheteur la plus mélancolique chose qui soit, qu'on contemple comme un petit secret. Ça, c'est peut-être le secret, donc, c'est au début de la pièce, qui dit le fonctionnement de la pièce dans laquelle Chéreau s'est engouffré, comme un petit secret qui ne demande qu'à être percé et qu'on prend son temps avant de percer. Travail du dramaturge. Comme un cadeau. Ça. Comme un cadeau que l'on reçoit emballé et dont on prend son temps à tirer la ficelle. Peut-être que Chéreau n'a pas pris assez son temps. Œuvre qui ne serait donc pas le dedans du cadeau, l'intériorité, la conscience ou la pyramide égyptienne. Mais le temps pris à faire de la présence un présent. Et Chéreau pourtant avait à lui-même adressé une recommandation. Saurons-nous jouer ce théâtre-là? C'est Chéreau qui écrit. Hein. Si drôle finalement où les mots précèdent la pensée, où de vieux enfants, de faux adultes essaient à tout hasard toutes les associations d'idées qu'ils trouvent pour enrubaner leur impuissance. À nous acteurs, metteurs en scène, Bernard Coltès réclame une chose rare et difficile, l'observation des autres, l'écoute des êtres, ce qu'ils se disent et dont ils ne savent pas parler, tous ces échafaudages secrets où l'affirmation catégorique n'est jamais qu'une faille de plus et la logique péremptoire une blessure secrète. Avons-nous suffisamment pris le temps, Patrice? As-tu suffisamment pris le temps, Patrice? On le dit ça à Nanterre, oulala. D'observer avant de se jeter sur le paquet ficelé. As-tu pris le temps d'écouter ce qu'ils se disent, ces êtres échafaudés sous le secret, et dont l'aveu est une ultime manière de ne pas avouer? Et quid de la blessure secrète qu'il emporte sur la logique péremptoire? La blessure secrète. L'art de Giacometti, c'est Genet qui écrit ça, me semble vouloir découvrir cette blessure secrète de tout être, et même de toute chose, afin qu'elle les illumine. L'illumination n'est pas l'éblouissement. Il en est peut-être même le contraire. Un processus immanent plutôt que transcendant. Et l'illumination serait cette faculté d'abolir le manifeste et le latent tout en maintenant la forme en état, c'est-à-dire paradoxalement en devenir. En puissance jamais abolie par un non, dut-il revenir 49 fois.
Mais alors Bernard, comment construis-tu tes pièces ?
Mes premières pièces n'avaient aucun dialogue, exclusivement des monologues. Ensuite, j'ai écrit des monologues qui se coupaient. Un dialogue ne vient jamais naturellement. Je verrais volontiers deux personnes face à face, une exposer son affaire, l'autre prendre leur lait. Le texte de la seconde personne ne pourra venir que d'une impulsion première. Pour moi, un vrai dialogue, c'est toujours une argumentation, comme en faisaient les philosophes, mais détournée. Chacun répond à côté, et ainsi le texte se balade. Quand une situation exige un dialogue, il est la confrontation de deux monologues qui cherchent à cohabiter.
Bernard, comment construis-tu tes pièces ?
Des dialogues qui ne se répondent pas, des monologues parallèles, une musique, un exercice d'écriture. Chez moi, les personnages commencent à exister quand je les fais parler, alors ils parlent beaucoup. Désolé. Ensuite, je suis obligé de couper beaucoup. Cette fois, le texte est court, j'ai pas tellement pensé à la scène.
Bernard, de quoi as-tu envie ?
J'écris en ce moment une homélie à la Bossuée que j'enverrai aux évêques et à quelques curés pour Noël. À Notre-Dame de Paris, ça serait bien. Sujet, la tiédeur. Je m'amuse beaucoup et je fais des grandes phrases. J'ai une envie folle d'une révolution et de faire de l'antipolitique. Qu'est-ce qu'on pourrait donc bien faire pour ça ? Qu'as-tu pensé de 1789 et 93 ? N'as-tu donc point vu les cloches de Silésie ? Bernard, PS et l'herbe.
Alors, quelle herbe ?
Pas d'herbe, mon vieux. Peut-être demain, à Baïa.
Oh, t'es où, Irmaon ?
Cheikh Abdallah K. Merci.